RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h09, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Très bon dimanche, merci d'être là. Tout à l'heure à 8h, on retrouvera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. 2 heures dédiées à votre voiture, bien entendu, avec vos questions auto 3216. L'essai de la semaine, ce sera la Volkswagen Passat GTE, qui est une familiale berline hybride rechargeable. Et puis notre bon plan au temps, quelles sont les règles folkloriques à connaître si on voyage en voiture et en Europe. Et puis, en deuxième partie, on s'intéressera au départ en vacances, les conseils pour la route. Peut-être vous apprêtez-vous justement à prendre la route. Eh bien, ce rendez-vous auto sera indispensable pour vous. Ce sera à partir de 8h avec Jean-Luc Moreau. D'ici là, Laetitia est toujours à mes côtés. Laetitia, notre vétérinaire, qui attend vos questions au 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Laetitia, tout à l'heure, notre vidéo LOLCAT sera à mourir de rire.
Oui.
Est-ce que vous avez déjà vu un chat qui voit un concombre
masqué?
Même pas masqué.
Même pas masqué.
Et alors, c'est incroyable. C'est une petite vidéo qu'on vous réserve.
Ah, elle est très courte, mais alors très efficace.
Mais c'est à mourir de rire, franchement. Donc, ce sera tout à l'heure. D'ici là, bien sûr, Laetitia, on va s'intéresser aux petites bêtes qui nous embêtent durant cet été. Et puis, tout à l'heure, on découvrira aussi une panthère qui est née en captivité et qui va retrouver, en fait, ses origines.
La terre de ses ancêtres. Revenir dans la nature. Elle va revivre, elle va vivre ce qu'elle n'a jamais vécu. C'est-à-dire la liberté dans la voiture. Voilà. Dans la nature. La voiture, non. Elle va pas aller dans la voiture.
Non.
Elle va aller dans un avion d'abord.
Oui, elle prend pas de voiture. Ah, peut-être qu'elle prendra un petit camion ou une petite voiture.
Voilà, elle prendra peut-être une petite voiture pour aller à l'aéroport. Et puis. Mais après, elle prend l'avion.
Et voilà, et après, elle sera dans sa nature. Belle histoire que nous racontera Patrick Jardin, qui sera notre invité. Tout à l'heure, on parlera des méduses. C'est vrai que ça, c'est quand même l'une des psychoses de cet été. Les serpents. Aussi. Et c'est vrai que parfois, on en a. Les petites vipères, les trucs comme ça.
Et j'ai l'impression qu'il y en a plus avec la canicule, mais c'est peut-être une impression.
On posera la question tout à l'heure à notre invité. Mais dans l'immédiat, Laetitia, pour commencer, ça c'est vraiment des petites bestioles qu'on adore, les araignées, les insectes.
Et oui. Et nous sommes avec François Lasserre, qui est auteur de « Au secours, une bestiole ». J'adore ce titre, aux éditions de Lachaud et Niestlé. Et prochainement, à la fin août, vous sortez aussi un livre qui s'appelle « Araignée du soir, espoir ». J'adore aussi.
Pas mal.
Pas mal. François, bonjour.
Bonjour François.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que l'été, c'est la période des insectes et des petites bestioles, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, quand on déjeune, elles nous embêtent. Alors, vous prenez la défense, leur défense, et vous dites laissez-les tranquilles. Mais franchement, quand on mange du melon et que les guêpes tournent autour de nous, est-ce qu'on n'a pas raison de s'inquiéter?
Alors, c'est surtout ce qui m'embête, c'est que il y en a très peu qui viennent à table finalement. Il y a des millions d'insectes en France. Il y a 40 000 espèces différentes. C'est absolument incroyable. Et en fait, à table, finalement, il y en a que une ou deux qui viennent nous embêter. Et à cause de ces deux-là, tous les insectes ont une mauvaise réputation.
Mais c'est vrai en plus. On n'aime pas. On a peur de se faire piquer.
On a peur de se faire piquer, mais c'est surtout qu'on est plus du tout habitué à ce qu'il y ait des insectes partout autour de nous. Quand on va vivre en Afrique, il y a des insectes partout. Au bout d'un moment, on les oublie. Mais dans nos villes, on en a de moins en moins. Donc les rares qui viennent s'inviter jusque sur notre melon, effectivement, on est inquiet parce qu'on est un peu devant l'inconnu. Mais les insectes, ils sont un peu comme les hommes, ils sont monotâches. Ils savent faire qu'une chose à la fois. Bon, c'est une petite blague,
pas comme les femmes, hein,
François,
comme les hommes, les hommes de sexe masculin, hein, parce que les femmes, on peut faire plusieurs tâches en même temps.
Exactement, oui, pas comme les humains, je parle bien des hommes.
Enfin, cela dit, mesdames, vous faites parfois plusieurs tâches, mais sur votre chemisier aussi. Non, François, allez-y.
Alors, ils sont un peu monotages, c'est-à-dire que quand ils font une mission, ils la font bien, et ils ne font que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'une guêpe qui vient à table choisir du melon ou prendre un morceau de jambon pour nourrir ses bébés, elle est sur le mode « je cherche de la nourriture », elle n'est pas du tout sur le mode « je défends mon nid », qui est quasiment le seul moment où on peut se faire piquer par une guêpe. C'est parce que dans un nid social, d'insectes sociaux, il y a des gardiennes à l'entrée du nid. Et si on s'approche haut, elles sont sur le mode « je défends le nid ». Mais quand elle vient à table, elle est là uniquement pour chercher de la nourriture. Mais on doute, c'est-à-dire que parfois elle est tellement insistante, elle tourne tellement autour de nous, mais c'est juste qu'avec ses antennes, elle a senti une odeur qui peut être autour de notre bouche, ou ça peut être notre crème solaire, ou peu importe. Et du coup, elle est un peu insistante. Elle reste, elle se dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» et tout. Et c'est là où on craque, c'est là où on saute, c'est là où on hurle, c'est là où on plante la fourchette dans l'œil du voisin, etc. Alors qu'elle...
c'est horrible votre histoire, là.
Ça peut arriver. On a des gestes complètement inconsidérés.
C'est vrai.
Elle est absolument pas là pour vous piquer. Il suffit de rester d'elle. J'étais dans le sud-ouest, je viens de passer une semaine, il y avait vraiment beaucoup de guêpes. C'est un endroit où il y avait beaucoup de guêpes. On a tous opté pour l'attitude restons zen. On a demandé aux enfants de fermer la bouche. C'est juste une précaution, mais c'est vraiment extrêmement rare qu'elles rentrent dans la bouche. On n'avait rien à y faire. On a juste demandé aux enfants de fermer la bouche et de ne pas bouger. Les guêpes viennent, vous renifent et elles repartent. Ce qu'elles cherchent, c'est un morceau de nourriture pour nourrir leurs larves. Donc, c'est le seul moyen, c'est de rester zen. Alors, il y a une autre petite méthode qui consiste à mettre un peu de ce qu'elle est venue chercher sur votre table, si c'est du melon ou le reste du poisson ou le reste des crevettes. Vous les mettez dans une petite coupelle et vous mettez là-bas au bout de la table. Pas trop loin, mais juste au bout de la table. Et comme c'est le seul endroit où on va pas les embêter à bouger notre main autour, etc., elles vont finir par rester sur cet appât et vous pouvez déjeuner tranquille. Et à la fin, vous faites ce que vous voulez de l'appât, mais c'est le seul moyen parce que sinon, je vais pas vous demander de les piéger. De chercher une bombe, enfin, vous voyez, c'est très compliqué. En plus, elles volent extrêmement bien. C'est très, très difficile, même ne serait-ce que de les capturer sous un verre. On peut faire ça aussi. On peut les enfermer sous un verre le temps du repas. Oui. Mais c'est assez compliqué. Leur mettre un lapin, c'est vraiment,
Mais est-ce qu'on peut les énerver malgré tout lorsque, elles sont là autour de nous, on fait des grands gestes, on essaie de les éloigner. C'est là où elles peuvent peut-être s'énerver?
Non, en fait. Bon, moi, quand quelqu'un craque vraiment, arrive pas à être zen, ce que je fais, c'est que je lui donne une petite tape sur la tête avec la main, à la guêpe. Je ne me fais absolument jamais piquer. Elle est juste ennuyée. Elle s'en va. Vous savez, je lui donne une petite tape sur la tête quand elle vole, mais c'est pas facile parce qu'elle vole très bien. Je le fais délicatement parce que j'aime bien les insectes et surtout je sais qu'elle ne va pas me piquer et jamais, jamais, jamais je ne me fais piquer.
Comme vous feriez une petite tape sur le museau d'un chien.
Exactement, je lui dis va-t'en, et là elle se dit bah tiens dans ce coin-là je suis pas la bienvenue et elle s'en va, ça marche à 100%.
Ah bon? Elles peuvent avoir quand même une réaction violente et essayer de vous piquer, non? Parce que justement
non, elle est sonnée. Je vous rappelle, elle est monotache. Elle n'est pas près de son nid. Le seul moyen de se faire piquer par une guêpe, ce serait de se la coincer sous le bras ou de la prendre dans la main. Et là, à ce moment-là, là, elle est complètement acculée et donc là, elle sort son aiguillon. Mais sinon, elle est pas.
D'accord.
Elle vient chercher de la nourriture.
Ouais, elle est en recherche.
Mais voilà. Alors, vous parlez du nid. Elle défend son nid. Et là, on l'a vu cette semaine, une personne est décédée en essayant de détruire un nid de guêpes. Et bien sûr, la personne a succombé à l'attaque des guêpes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent, si on a des guêpes, peut-être qu'il y a un nid de guêpes près de la maison. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut pas s'en approcher, alors.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ces guêpes-là, quand elles ont... Voilà, c'est... En plus, souvent, je vais vous dire, on détruit le mauvais nid. C'est-à-dire que les guêpes qui viennent... Il y a 8000 espèces de guêpes en France, vous m'entendez, 8000. C'est absolument incroyable. Il y en a que 20 qui vivent en société, 20 espèces sur ces 8000. Et sur ces 20, il y en a que 2 qui viennent nous embêter à table. Les autres ne viennent jamais nous embêter. Et c'est celles qui viennent nous embêter encore, si on est zen, elle nous embête pas. En général, elle niche sous terre. Donc souvent, les pompiers détruisent un nid de guêpes qui ne venaient absolument pas nous embêter.
Ah oui, d'accord.
Celles qui vivent sous les toits sont rarement celles qui viennent à table. De toute manière, quand une guêpe s'installe chez vous, elle s'installe chez un grand singe, elle voit bien, c'est-à-dire nous, elle voit bien que ça bouge dans tous les sens, elle voit bien que c'est occupé, elle va pas vous attaquer à longueur de temps. J'ai fait l'expérience une fois, je suis arrivé chez un oncle qui avait une espèce de petit cabanon en bois et on venait déjeuner chez lui. Puis on arrive chez lui et je le vois avec un casque de moto, une écharpe et une énorme bombe d'insecticide dans la main. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, il y a des guêpes qui sont installées, je suis embêté et tout. je regarde, c'était vraiment un nid juste au-dessus de la porte, ça rentrait sous le toit, juste au-dessus de la porte du cabanon, et que je lui ai dit, écoute, tu sais, en général, celle qui niche en hauteur, c'est pas celle qui nous embête. Il dit, mais attends, on va déjeuner juste devant. Je lui dis, laisse tomber. Là, si tu mets de la bombe, ça va être un carnage. Tu vas te faire piquer, ça va rentrer dans le casque. Vraiment, écoute, laisse-les, fais-moi confiance. On les a laissés, on a pique-niqué juste dessous. On les voyait faire des allers-retours. Il n'y en a pas une qui est venue nous prendre. Pourtant, il y avait du poulet, du melon, il y avait tout ce que vous voulez. Il n'y en a pas une qui est venue nous embêter. Et puis, ce que je voudrais, en fait, on détruit un nid de guêpes, c'est parce que ça nous rassure psychologiquement. On se dit, il y a les enfants, on a entendu des choses incroyables sur les guêpes. Mais finalement, il y a très peu, par rapport à toutes les guêpes qui vivent en France, il y a très peu de gens qui se font piquer, finalement. C'est tous plus ou moins piqués une fois par an, mais c'est pas beaucoup par rapport à toutes les guêpes qu'il y a. Et puis surtout, c'est extrêmement rare, les accidents mortels. Mmh. C'est plus rare que la foudre. En France, accidents.
Oui. François, juste une chose. Vous savez quoi? J'ai l'impression qu'il faut que vous buviez un petit peu d'eau. Nous, ce qu'on va faire, on va en profiter. Personne va le voir. Vous allez voir, ça va être génial. Nous, ça tombe bien. Il faut qu'on fasse une petite pause.
Voilà.
D'accord. Okay. On se retrouve dans un instant. Vous enlevez la guêpe que vous avez avalée. D'accord.
J'ai encore autre chose à vous raconter.
Et voilà. Et puis, juste après, on parlera d'une autre psychose, Laetitia.
Les araignées.
Les araignées. Et puis après, les serpents. Et après, les méduses. Oh là 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 là. À tout de suite, c'était RMC 7h20.
RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
h 21, le retour du week-end des experts, les animaux. Et ce matin, nous parlons de ces petites bébêtes qui nous embête un petit peu l'été, Laetitia.
Et oui, et nous étions avec les guêpes.
Oui.
Alors, vraiment, j'ai une grande peur des frelons et des hannetons. Alors, est-ce que j'ai raison ou pas, François?
Alors, pourquoi des hannetons? C'est très... Excusez-moi, Laetitia. Je rigole parce que les hannetons, c'est assez rare qu'on me dise ça. Les hannetons, ce sont des...
J'ai une phobie parce que, j'ai été en contact d'hannetons et ça m'a vraiment pétrifiée. Donc, c'est vraiment D'accord. quelque chose très lié à l'enfance.
Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il est grand et que c'est vrai que les grands insectes, on n'est plus habitués. Mais il y a, dans les hannetons, il y a 100 espèces en France de hannetons. Il y en a des très grands et celui qui était assez commun est assez grand, donc c'est sûr que c'est un peu surprenant, mais un hanneton, vous pouvez le prendre dans la main, le caresser, vous allez juste sentir ces petites pattes qui s'accrochent à vos doigts, mais vous risquez absolument rien. Il grignote les feuilles, pardon, celui-là, et puis son enfant qui vit 3 à 5 ans sous terre, ben vous le voyez jamais, c'est une espèce de larve blanche qui est complètement invisible puisqu'elle est sous terre.
Et les frelons?
Alors les frelons font partie de ces guêpes sociales dont je vous parlais tout à l'heure, des rares guêpes qui vivent en société, et les frelons sont des insectes extrêmement craintifs. Ils ont une réputation exécrable, je sais absolument pas d'où elle vient. Je crois que les Romains les élevaient dans des cruches et les jetaient sur leurs ennemis, jetaient les nids sur leurs ennemis, et ça viendrait de là, parce que c'est très très rare de se faire piquer par un frelon.
Donc faut pas s'inquiéter.
Ils sont extrêmement craintifs, alors en plus il y a eu l'histoire avec les apiculteurs, mais faut vraiment pas s'inquiéter des frelons. Moi, quand je vois un frelon dans la nature, je lui cours après pour essayer de l'attraper, de le montrer, et de le relâcher après, parce que c'est vraiment une bête absolument magnifique. Mais c'est très difficile, parce qu'il a peur de nous, et il vole très très vite.
Alors, parlons maintenant des araignées. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent des piqûres d'araignées, quand on va se balader dans les champs, et puis on revient avec des piqûres au mollet, on se dit, oh bah voilà, c'est des araignées qui nous ont piqués.
Alors ça, c'est absolument archi faux. Les araignées ne sucent pas de sang et ne mangent pas de grands singes, ou en tout cas, elles ne mangent pas de grandes proies immenses, parce que elles n'ont même pas de dents pour les croquer. Elles aspirent l'intérieur de leur proie, donc il leur faut des petites proies adaptées à elles. Et surtout, elles ne sucent pas de sang. Il n'y a que les bêtes qui sucent le sang, qui viennent nous piquer tout le temps, donc 9 fois sur 10, ce sont des moustiques.
Oui.
Et sinon, il y a d'autres sortes de bestioles dans l'herbe qui peuvent éventuellement vous sucez le sang, surtout quand on se balade dans la nature. Il y a plein de petits insectes suceurs, mais l'araignée est un arachnide qui ne suce pas de sang. Et donc, cette histoire est absolument incroyable, que quand on a un gros bouton, on va voir sa maman, son pharmacien ou son médecin qui vous raconte que vous avez une piqûre d'araignée. Ça, c'est archi faux. C'est étonnant parce que on croit qu'une bête qui ne suce pas de sang et qui ne nous mange pas viendrait comme ça nous mordre gratuitement la nuit pour rien. juste pour le plaisir. C'est comme si à ce moment-là, on croyait qu'une blatte dans la maison, qu'il y a des petites mandibules, venait la nuit nous mordre, comme ça, pour le plaisir et repartir.
Mais dans l'actualité, alors, on a parlé d'une araignée qui s'appelle la recluse brune. Alors, a priori, c'est une araignée qui vient d'Amérique du Nord, dont les morsures seraient à l'origine de nécrose, avec hospitalisation. Il y a deux personnes qui ont été hospitalisées la semaine dernière à cause de cette araignée.
Alors, ce qui est vrai, c'est que toutes les araignées peuvent mordre. Toutes ont un système avec des crochets et un peu de venin. Mais on pourrait se faire mordre par une araignée, mais c'est en la prenant ou en la contraignant vraiment physiquement.
Je crois qu'elles étaient dans un pantalon, dans un vêtement. Voilà. C'est au moment de mettre ce vêtement que les personnes se sont fait mordre. Bon.
Voilà, donc c'est possible dans l'absolu de se faire mordre, mais c'est incroyablement rare de coincer une araignée au point qu'elle sort ses crochets, etc. Et là, vous me parlez d'un cas particulièrement unique. Alors, c'est pas une araignée américaine, c'est l'équivalent, mais européen, c'est sa cousine.
Ah, d'accord.
On a la cousine de la recluse brune, qui aurait un venin un peu plus toxique que d'autres, et jusque-là, elle s'était jamais fait remarquer. Et effectivement, c'est arrivé une fois dans un pantalon, mais il y a à ma connaissance, il n'y en a qu'une qui a été identifiée de façon formelle par la spécialiste du muséum, Christine Rollard.
Qu'on a déjà reçue, oui.
Avec l'araignée à côté, il n'y en a vraiment qu'une. Et voilà, on tombe sur le cas de vraiment pas de chance. Il y a une morsure, il y a une réaction, et du coup, les araignées en prennent encore pour leur grade. Ce qu'on s'est dit tout de suite avec Christine et d'autres personnes, on s'est dit, c'est pas bon pour nos affaires d'essayer de réhabiliter ces petites bêtes qui sont incroyablement utiles, les araignées, et qui, dans leur immense, immense majorité, sont absolument inoffensives. Où que vous soyez dans le monde, de toute manière, on ne se fait jamais mordre par une araignée, et même si vous prenez une araignée pour l'embêter, où que vous soyez dans le monde, c'est extrêmement rare qu'elle mette du venin, déjà, et que vous fassiez une réaction.
Oui, c'est vrai, elle nous l'avait expliqué. Passons maintenant aux moustiques, très vite. Il y a une idée reçue, comme quoi, le soir, il faut éteindre les lumières.
Si on veut dormir, cela dit, c'est pratique.
Oui,
éviter les moustiques, en tout cas.
Alors, la phrase « éteint la lumière, les moustiques vont entrer » est archi-fausse, c'est assez drôle. Alors, bien sûr, il y a des petites bêtes qui tournent autour des lampes.
Mais parce que même moi, je dis, mais non, on peut les allumer. Mais Mordicus, tout le monde me dit, non, faut éteindre.
Faut éteindre. Alors, ça voudrait dire que quand il n'y a pas d'homme, il faudrait que les sangliers aient une lampe frontale sur le nez pour se faire piquer, pour que les moustiques puissent les repérer la nuit. Non, c'est pas ça du tout. Vous l'avez tous remarqué, d'ailleurs. Moi, j'adorerais que les moustiques soient attirés par la lumière, parce que quand elle m'a piqué une fois ou deux, je dis elle, puisque c'est la femelle qui nous pique, elle m'a piqué une fois ou deux, j'en peux plus, je me réveille. Qu'est-ce que je fais? J'allume la lampe de chevet pour essayer de m'en débarrasser. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'allume la lampe de chevet? Elle disparaît, se volatilise complètement. En fait, elle voit que ça bouge, il y a de la lumière, elle s'en va complètement, elle se met dans un coin, on la voit pas du tout, et elle reviendra quand vous aurez éteint la lumière. Et de toute manière, si c'était attiré par la lumière, il suffirait d'allumer dans le couloir, de rester tranquille avec la porte entrouverte, mais essayez, ça ne marche pas. Ce que les moustiques repèrent pour vous trouver, c'est votre chaleur, la chaleur corporelle, éventuellement les mouvements, et puis le CO2 et d'autres odeurs que l'on dégage.
C'est pour ça que certaines personnes sont plus sensibles en fait aux moustiques que d'autres. C'est vrai qu'il y a.
C'est toujours un peu à l'étude.
Des peaux à moustiques.
Voilà, moi j'ai entendu dire que ils aimaient bien les odeurs de pieds. J'ai entendu dire. Bref.
De fromage, quoi.
De fromage. Donc les campeurs le savent.
Ça va faire plaisir à ma femme qui elle se fait piquer, pas moi, François.
Bon, vous lui direz pas que c'est moi, mais.
Non.
En tout cas, c'est encore à l'étude. C'est vrai qu'on n'est pas dans la tête d'une femelle de moustique, mais elles peuvent aimer. Alors, c'est pas parce qu'on a mangé des fraises, c'est pas parce qu'on a mangé du sirop. On ne sait pas trop, c'est un peu compliqué. Puis nos odeurs sont des mélanges de plein d'odeurs. Et donc, effectivement, parfois, elle peut avoir une préférence.
Merci beaucoup, François.
Merci beaucoup.
On va passer un été plus cool.
Voilà, là, c'est bien.
Restez zen.
On reste zen avec vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Au secours, une bestiole aux éditions de La Chaux et Niesley. Et si vous avez peur des bestioles, justement, lisez ce livre. Après, vous n'aurez plus du tout peur.
Très bien. Vous n'avez pas peur de Yasmina Bendekaï et de Rémi Barré, Laetitia?
Je ne crois pas, non, bon, pas encore.
Ils sont juste
au
là.
Au secours, la pluie arrive.
Aïe, aïe, aïe.
Ah oui, non, ça, j'ai
pourtant,
peur des infos.
Pique. Oui, mais vous piquez, mais c'est tout doux. Bon, non, cela dit, je n'ai pas testé, donc on ne peut pas savoir.
Mais comme je viens de parler, j'ai l'impression que vous parlez de moi. Donc dites bien que vous parlez bien de Rémi Barré.
C'est moi qui suis mal rasé.
Voilà. Qui s'est mal rasé, voilà.
Merci beaucoup pour la précision.
Yasmina est très bien rasée.
Je pense qu'elle n'a même pas besoin, mon cher Rémi.
Ah bon, pourquoi?
Je vois que vous savez parler aux femmes. Quel tombeur, ce Rémi. Il va falloir que je vous explique deux, trois trucs après les infos. Donc, la météo des infos. Et à tout de suite, c'était RMC. Laetitia, attention, attention. Il est temps de retrouver une petite question flash. Comme chaque dimanche matin, vous le savez, en moins de deux minutes, vous vous engagez à répondre maintenant à la question d'Anne-Laure que nous avons reçue par mail animaux@rmc.fr. En été, j'aime bien courir avec mon labrador, Laetitia, mais je trouve que depuis l'année dernière, donc il a 7 ans, ce labrador, il se fatigue de plus en plus vite et souffle beaucoup. Est-ce que je dois ralentir la cadence ?
Anne-Laure, moi j'irai d'abord voir un vétérinaire. Vous savez, 7 ans chez un labrador, c'est environ 60 ans chez l'homme. Donc il faut vérifier si tout va bien, si la mécanique va bien, si le cœur va bien. Alors d'abord, il va vérifier l'état de son cœur, parce qu'il peut avoir un début d'insuffisance cardiaque, et c'est pour ça qu'il s'essouffle. Ensuite, il va vérifier son poids, parce que les labradors, ils aiment bien manger, ils aiment bien grossir. Enfin, vous savez, et l'obésité, c'est une contre-indication pour le sport, bien sûr. S'il y a une surcharge pondérale, on a un chien qui a des difficultés à respirer, et le fait qu'il soit trop gros, ça sollicite trop le cœur. Donc on peut aussi avoir un arrêt cardiaque derrière.
Et ils sont sensibles à l'arthrose aussi, non?
Et l'arthrose, donc vérifier les articulations, bien sûr. On est en plein dans l'âge, là, des problèmes d'arthrose. Donc, est-ce qu'il n'a pas de problème de douleur articulaire? Donc tout ça, il faut vérifier, surtout s'il a 7 ans, il commence à s'essouffler. Donc on fait un check-up chez le vétérinaire. Et puis, bien entendu, faites attention que vous ne le faites courir que l'été. Il faut vraiment faire ça petit à petit, hein, pour relancer la mécanique, même si vous, ça va bien. Et puis, bien observer un temps d'échauffement. Ça, on l'oublie aussi, c'est 10 minutes de marche pour le chien avant de le faire courir, et après on fait des élongations et des massages du chien.
Ça, c'est génial.
Bah oui, pour éviter les
courbatures. Et puis le labrador, si on a la chance d'être à côté d'un point d'eau, on va se baigner.
Et on va se baigner, bien
ça,
sûr.
Ça, c'est cool, ils adorent ça. Hein. 32-16 hein, pour toutes vos questions animaux sur RMC, on vous attend.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le retour du week-end des experts sur RMC des animaux, avec Laetitia Barlerin qui m'accompagne jusqu'à 8h. Et puis juste après, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, un spécial été aussi avec Jean-Luc tout à l'heure, puisque nous vous donnerons un maximum de conseils pour bien préparer votre véhicule pour la route des vacances. Laetitia, ce matin, dans ce rendez-vous animaux, on évoque en fait ces bébêtes qui nous embêtent tout l'été.
Voilà, alors on a vu les plus petites, hein, les insectes, les araignées. Maintenant, on va passer un peu plus grand. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont des phobies des reptiles et surtout la phobie des serpents. Et nous allons en parler avec Luc Chazel, qui est auteur du livre « Les serpents ont-ils peur des crocodiles ?» 120 clés pour comprendre les reptiles aux éditions CAE.
Bonjour Luc.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, c'est vrai que l'été, on aime bien aller se promener en montagne, à la campagne. Et si on est un peu phobique des serpents, c'est vrai qu'on a une appréhension. On a peur de les croiser. Alors, quels sont réellement les serpents dangereux pour l'homme en France?
Bon, alors, en France, d'une manière générale, la plupart des serpents ne sont pas dangereux, puisque l'essentiel des espèces que nous avons sont des couleuvres.
Et les couleuvres ne sont pas dangereuses?
Non, les couleuvres ne sont pas dangereuses, puisque de toute façon, ce sont des serpents qui ne sont pas dotés de crochets venimeux. En revanche, il est effectif que les vipères, nous en avons 4 espèces dans notre pays, sont des espèces qui peuvent, dans le cas d'une morsure, créer une envenimation susceptible d'être dangereuse.
Alors, on parle aussi de la couleuvre vipérine. Est-ce qu'elle est dangereuse?
Oui. Alors, absolument pas. La couleuvre vipérine est une petite couleuvre qui doit son nom à une très vague ressemblance, dirais-je, avec la vipère, notamment au niveau de la jonction tête-cou. C'est un petit serpent qui vit près de l'eau et qui est absolument inoffensif.
D'accord. Alors, dans quel endroit on peut trouver, peuvent se cacher tout simplement les vipères? Dans quel biotope, dans quelles conditions on peut être confronté à ces vipères?
Alors, en ce qui concerne les vipères et les serpents en général, d'abord, je voudrais tordre le cou à une croyance bien répandue, c'est quand on dit, par exemple, à des gens qui passent leurs vacances quelque part, n'allez pas par là, c'est un endroit infesté de serpents. Personnellement, nous n'avons jamais vu d'endroit infesté de serpents. Et si dans une journée, c'est nous vrai. En avons croisé deux ou trois, c'est une journée formidable pour nous.
Vous allez alors, jouer au loto après, c'est ça?
Voilà, absolument. D'ailleurs, ça n'a pas marché pour autant. Par ailleurs, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas d'endroit véritablement précis parce que les vipères sont extrêmement peu exigeantes quant à leur biotope. On peut les trouver relativement près de l'eau, en forêt, dans des endroits frais, sur des collines rocailleuses et tout aussi bien à plus de 2000 mètres en montagne.
Oui, c'est vrai.
Donc, ce sont des serpents qui sont répandus un peu partout et je dirais que personnellement, je ne connais pas un moyen qui nous garantisse de les observer en disant, ben allons à tel endroit, ou au contraire, pour les éviter, n'allons pas à tel endroit.
Est-ce qu'elles peuvent rentrer dans les habitations?
Alors, personnellement, on m'a relaté de temps en temps quelques histoires de cet acabit. Personnellement, je n'ai jamais été en mesure de constater qu'il s'agissait effectivement d'une vipère. Je sais que de manière naturelle, la vipère ne va pas rentrer dans les habitations. C'est pas une espèce qui est très anthropophile. Il y a des serpents anthropophiles, mais je pense notamment à certains cobras en Inde, mais c'est très loin de chez nous.
Oui.
La vipère peut éventuellement vivre près des habitations. Si vous avez autour de vous un environnement ou un jardin qui lui offre, ma foi, un lieu où elle peut se nourrir, où elle trouve la quiétude, elle peut être relativement près des habitations, mais à ma connaissance, elle ne va pas rentrer, non pas rentrer spécialement en tout cas.
Alors, est-ce qu'elle morde facilement? Parce que je sais qu'il y a des morsures avec injection de venin et des morsures sans injection de venin.
Oui. Alors, effectivement, bon, quand dans le cas d'une morsure, alors je vais vous répondre en deux temps. D'abord, est-ce qu'elle morde facilement? Là, je suis formel, non. La vipère a le même souci que les gens dont vous me parliez au début de cette interview. La vipère cherche à nous éviter. Donc, au départ, son premier travail, c'est d'éviter la rencontre. Quand la rencontre se produit, la vipère, en général, va se mettre en position de défense. Mais si vous ne commettez pas l'erreur, comme j'ai vu certaines personnes le faire, de prendre un petit bâton, une baguette et d'aller la titiller, vous ne risquez absolument rien, elle ne viendra pas vous mordre. Ceci étant, quand morsure il y a, alors après, il y a une petite part de chance, on peut être mordu, je dirais, d'une manière plus ou moins efficace. Et en l'occurrence, se voir inoculer une dose de venin plus ou moins importante. Tout ça tient à la qualité, nous allons dire, de la morsure.
Mais enfin, si elle vient de chasser, elle n'a plus de venin. Donc, il peut y avoir des morsures qu'on appelle blanches.
Oui, alors absolument, effectivement. Alors, il faut savoir que, bon, une vipère peut apparemment mordre efficacement avec une injection de venin éventuellement létal pour la proie, apparemment 4 à 5 fois.
Oui.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, en cas d'envenimation, bon, je crois que les consignes qui ont été diffusées sont... La première des choses, alors, donc, c'est de ne pas s'affoler, d'éviter une accélération du flux sanguin et donc de voir le venin se répartir beaucoup plus vite dans le corps qu'il ne le faudrait. Pour le reste, je pense que de toute manière, en cas de morsure de vipère avérée à partir du moment où l'on sait ce qui s'est passé, il faut immédiatement prendre contact avec un centre de secours, avec un médecin. Je tiens à signaler qu'il existe des équipements qui sont censés aspirer le venin.
Oui.
Et d'après ce que j'ai pu savoir au travers de discussions avec des gens spécialistes de ces questions, il ne faut pas quand même leur accorder une confiance absolue. Et le recours aux médecins et à un traitement adéquat me semble préférable.
Oui, et puis il ne faut pas inciser la plaie, faut refroidir la plaie, c'est encore le mieux, et aller voir un spécialiste du milieu médical.
Voilà,
comment éviter
possible.
Et juste une dernière question, comment éviter cette rencontre?
Alors,
parce qu'on dit qu'il faut marcher, faire du bruit.
Alors, il est certain que, bon, à partir du moment déjà où vous marchez et vous marchez dans la nature sans faire spécialement, sans porter une attention au bruit que vous faites, la plupart de la faune déjà vous repère. Il est certain aussi que plus vous serez bruyant, moins vous avez de chances de rencontrer un animal. Par contre,
pour les vipères,
voilà, en ce qui concerne les vipères, il faut éviter, je dirais, dans certains lieux, par exemple, dans les broussailles, si pour une raison ou pour une autre, vous allez au bas des buissons, que vous y mettiez les mains, ou si vous vous engagez dans des taillis, où le serpent peut être tout à fait tranquille, en pleine quiétude, c'est là, si vous le dérangez à vipère, que vous avez un risque d'être mordu. D'une manière générale, évitez ces zones. Et je crois que déjà, vous aurez évité 80% des risques de vos rencontres.
Merci beaucoup, Luc.
Mais pas de problème.
Merci. C'est très sympa. Merci. Les serpents ont-ils peur des crocodiles?
C'est voilà. Aux éditions K et c'est Luc Chazel. Et c'était merci beaucoup ces précisions. Et c'est vrai, on sera moins effrayés à aller dans les bois ou à la campagne ou à la montagne. Merci, Luc.
Bon, Laetitia, après Luc, nous allons nous intéresser maintenant aux méduses.
Oui.
Vous allez vous baigner cet été?
Oui, bien sûr.
En mer?
Oui, j'espère.
Du côté de la Méditerranée?
J'espère.
Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites attention malgré tout?
Oui.
Vous allez regarder,
des mauvaises rencontres sur la plage et dans la mer.
Sur la plage?
Oui, mais enfin, c'était pas des méduses. Mais...
Ah non. Mais toujours aussi collantes. C'est
voilà,
ça, ces rencontres.
Exactement.
Je vois ce dont vous voulez parler.
Mais dans
Laetitia.
La mer, c'est vrai.
Ça peut arriver
j'ai
aussi.
J'ai été tatouée par une méduse.
Et c'est vrai que les méduses, on l'a sans doute remarqué, vous l'avez remarqué, il y en a de plus en plus. Et nous allons en parler avec une spécialiste.
Voilà, nous sommes avec le docteur Jacqueline Goy, qui est co-auteur d'un livre qui s'appelle Les méduses à la conquête des océans, aux éditions du Rocher, un livre co-écrit avec Robert Calcagno. Et c'est un très beau livre avec des très belles photos de méduses, bien sûr. Jacqueline, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors, voilà, on a l'impression, alors c'est même plus une impression, hein, qu'il y a de plus en plus de méduses, parce qu'elles sont là. Chaque année, et il y a toujours, là sur la Côte d'Azur, en début de mois, il y avait vraiment beaucoup de méduses. À quoi est due cette prolifération? Est-ce que la canicule, parce qu'on a eu de la canicule au mois de juin, les a favorisées?
Alors, depuis un certain temps, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait énormément de méduses. D'ailleurs, le livre que nous venons d'écrire avec Robert Calcagno dit bien cette extension des méduses dans tous les océans et on a essayé d'en expliquer les causes. Alors, en Méditerranée, les causes sont relativement simples. C'est l'augmentation de la température.
Ah oui.
La Méditerranée a augmenté de température et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour les océans? Ça veut dire que ça prolonge l'été. L'été commence plus tôt et finit plus tard. Donc il va commencer au lieu de l'augmentation de température va commencer en mars, avril et se terminer en novembre. Par conséquent, les méduses ont beaucoup plus de temps pour se reproduire et du coup, elles sont réellement en extension.
La surpêche aussi, on parle de surpêche qui favoriserait les méduses?
Alors oui, la surpêche, ça c'est évident, c'était déjà une des mises en garde du prince Albert Ier, qui a été le grand fondateur de l'Institut océanographique à Monaco. Eh bien, Albert Ier disait déjà qu'il fallait se méfier et garder l'équilibre des océans. À partir du moment où vous avez enlevé les poissons, qu'est-ce qui reste? Il reste la nourriture et les méduses sont des animaux extrêmement voraces. Donc, elles vont se jeter sur cette nourriture qui est disponible. Et du coup, si vous ajoutez température et nourriture, vous avez toute l'explication pour ces proliférations de méduses en Méditerranée.
Alors, dans le livre, il y a marqué que les méduses tuent 5 fois plus que les requins. Alors, est-ce qu'elles sont toutes dangereuses? Est-ce qu'il y a un danger réel, en tout cas pour nous, vacanciers?
Alors, on a bien insisté justement sur cette relation entre les requins et les méduses, parce que les requins, c'est des animaux extrêmement... carnassiers, mais en même temps qui sont très protégés par leur carapace, par leur peau. Et finalement, ce sont les méduses qui sont si molles, si gélatineuses, qui sont en extension. Donc vous voyez, il y a une sorte de paradoxe dans les océans. Oui, alors certaines méduses sont très dangereuses. Les méduses méditerranéennes piquent, mais elles sont pas mortelles. Les méduses mortelles, pour l'instant, elles sont localisées dans la partie de l'océan Indien, l'océan Indo-Pacifique, donc assez loin de chez nous. Celles-ci sont mortelles. En Méditerranée, non, elles piquent, elles font mal, elles peuvent déclencher des réactions d'allergie violentes, mais tous les postes de secours sont avertis et par conséquent, on est soigné immédiatement.
Cela dit, si on est sensible, enfin, ça, les conséquences peuvent être dangereuses, parce que si on se fait piquer plusieurs fois alors qu'on est un petit peu éloigné du rivage et qu'on panique, les conséquences peuvent être graves, non, Jacqueline?
Oui, alors c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et suivre
comment
les
se comporter,
consignes.
Comment se comporter si on se fait piquer ou si on se retrouve dans un banc de méduses? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner?
Alors, dans un banc de méduses, bon, c'est évident que la première chose à faire, c'est de revenir sur la plage le plus vite possible sans paniquer, parce que c'est pas mortel. En revanche, si vous êtes piqué sur une grande surface du corps, si vous avez plusieurs piqûres, plusieurs méduses qui vous ont piqué, à ce moment-là, il faut vraiment faire très attention, parce qu'il y a des réactions d'allergie violente. Hein. C'est d'ailleurs grâce à ces animaux qu'on a expliqué le phénomène des allergies sur les bateaux du prince Albert Ier, faut le rappeler. Hein.
Alors, et quand on est piqué, qu'est-ce qu'on fait alors?
Alors d'abord, on sort de l'eau, ensuite on se rince à l'eau de mer.
Et pas à l'eau douce.
Surtout pas à l'eau douce. Et puis, on fonce à la pharmacie la plus proche ou au service de secours. Toutes les plages de Méditerranée sont surveillées. Donc, il ne faut pas avoir peur. L'essentiel, c'est de ne pas paniquer.
Alors, on dit souvent qu'il faut uriner sur la brûlure due à la méduse.
Oui, alors surtout pas. Hein. Non, surtout pas. C'est justement, je me suis fait un jour, dans une conférence, je me suis fait prendre à partie par un médecin qui m'a demandé de ne plus jamais donner cette recette, parce que si la personne a une infection urinaire, c'est vraiment la septicémie radicale. Hein. Donc, c'est pire que le mal. Donc, je crois qu'il faut éviter ça. Le mieux, c'est quand même d'aller dans un poste de secours.
D'accord. Alors, on a aussi parlé de la mousse à raser à mettre sur...
Oui, alors tous ces produits qui sont plus ou moins adoucissants vont favoriser une réaction contre les méduses, contre le venin des méduses. On parle aussi de chaleur. Vous le disiez justement pour les vipères, je crois que le venin se détériore avec la chaleur. Donc c'est pas un phénomène qui est lié spécialement aux méduses, c'est lié au venin.
Oui, bien sûr. Si on se fait piquer par une guêpe ou une abeille, bien sûr, en chauffant la plaie...
Oui, ça c'est connu. Bon, donc il y a ces petits remèdes qui sont faciles, mais vous n'avez pas de chaleur comme ça. Ça
oui, bien sûr.
Votre sèche-cheveux et encore.
Sèche-cheveux sur la plage, c'est pas facile.
Voilà,
en plus.
C'est pas facile. On a parlé aussi de mettre de la javel ou du citron, mais vous n'avez pas forcément d'eau de javel dans votre sac de plage.
Non,
voilà.
C'est sûr. Peut-être un citron, mais bon.
Peut-être un citron. Et je crois quand même le plus raisonnable, c'est de ne pas paniquer et d'aller au poste de secours le plus vite possible. D'ailleurs, ils sont tous équipés. J'insiste là-dessus.
Oui.
C'est vrai.
Bien
c'est
sûr.
Vrai.
Merci beaucoup, Jacqueline, pour toutes ces précisions.
Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les méduses, et vraiment la vie des méduses, c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai été passionnée par ce livre.
Oui, très beau.
Pourtant,
bouquin.
Je n'aime pas forcément les méduses comme vous. Ça s'appelle Les méduses à la conquête des océans. C'est coécrit par Jacqueline Goire et Robert Calcagno aux éditions du Rocher.
Merci beaucoup, Jacqueline.
Merci Jacqueline. Bonne journée. Au revoir.
Jacqueline, qui est véritablement l'une des grands spécialistes des méduses en France. Hein,
et
donc,
oui.
On avait
toujours passionnant.
Beaucoup de plaisir à la voir ce matin. On revient dans un instant, 8h-10, c'est RMC, Laetitia, et on va s'intéresser à un événement unique, une panthère qui est née en captivité et qui va être relâchée dans la nature, dans son environnement. On en parle dans une minute. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà le retour du week-end des experts, les animaux sur RMC avec Laetitia Barlerin. Belle histoire maintenant, Laetitia, pour conclure ce rendez-vous animaux. Nous allons nous intéresser à une panthère qui a un destin particulier.
Voilà, elle est née au Parc des Félins à Nesles, en Seine-et-Marne. Et nous avons avec nous Patrick Jardin, qui est directeur du Parc des Félins. Patrick, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Alors, c'est un véritable événement. Hein. C'est une première en France qui va avoir lieu dans 2 jours maintenant. Une panthère née dans votre parc va prendre l'avion en direction à la terre de ses ancêtres. Racontez-nous.
Voilà, bah, c'est la concrétisation. Moi, ça fait 30 ans et c'était incroyable. Parce que vous savez que les carnivores sur la planète, eh bien, ils n'ont plus beaucoup de place. Et quand un pays fait ce genre de choses, eh bien, c'est fantastique. En l'occurrence, eh bien, Simba, il part dans le Caucase russe et bah, dans un centre de réintroduction où il y a déjà des individus. Actuellement, il y en a 5. Et il a toutes les chances de retourner dans la nature. On prépare depuis des mois à une nourriture naturelle. Enfin, c'est génial, quoi. Pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Et pour Grégory, qui travaille depuis des mois sur un dossier aussi complexe, parce que là, c'est des échanges internationaux,
oui.
C'est très, très compliqué. Et moi, je, franchement, depuis 30 ans, je croyais qu'on n'arriverait jamais à faire cette magnifique chose. C'est génial.
Alors, mais c'est une panthère de Perse, hein, c'est ça ?
Panthère de Perse, c'est ça.
Voilà.
Peu connue, très peu connue.
Bah oui, parce que c'est très peu connu. Alors, elle est née en captivité, donc elle a quand même, elle est quand même un petit peu imprégnée par l'homme. Est-ce qu'elle est dépendante de l'homme ? Comment ça va se passer ? Est-ce qu'elle va vraiment pouvoir revenir dans la nature ?
Alors déjà, de toute façon, ces animaux ne perdent absolument pas leur instinct de chasse. Hein. On a sur notre site, on a nous au parc, vous savez, on vit sur 71 hectares. Et les espaces sont très très grands. Hein. C'est plusieurs milliers de mètres carrés, plusieurs hectares pour les gros carnivores. Et la prédation naturelle par rapport à des serpents, vous parliez tout à l'heure, c'est très. On peut voir un chat africain qui mange un petit. Donc ça ne perd absolument pas ça. Donc nous, la façon dont on travaille avec ces grands espaces à ciel ouvert, les léopards de Perse chez nous, vous les voyez dans les arbres, monter là-haut dans les arbres,
c'est
comme
vrai.
Dans la nature, hein,
oui.
De la même façon. On n'est pas dans des petits espaces artificiels. Donc ça, c'est déjà une des premières nécessités pour pouvoir espérer ça. Et après, c'est donc cet individu va... est jeune, et il va repartir dans un centre de réintroduction, c'est-à-dire qu'il faut faire le contraire de ce que l'on a fait quand il y a plusieurs décennies, il y a eu des captures, on va pas cet individu va pas être relâché, il part mardi, hein, il part mardi, deux jours après il est à Sochi, après une petite halte à Moscou, c'est fantastique, et là-bas nous on trouve les photos de ce centre de réintroduction qui sont c'est absolument génial, c'est comme le parc des félins mais en beaucoup plus grand et pour une seule espèce, les espaces sont grands et ils mettent des proies naturel dans le noir, dans des cartons, dans des boîtes, et qui lâche de façon que l'animal ne s'en aperçoive pas et sans la présence de l'homme. On va faire, mais on n'utilise pas le mot imprégné. Elle n'est pas imprégnée, hein, cet individu chez nous. Hein, nous, on fait que de leur dos, que de les nourrir très simplement. Quoi.
D'accord. Donc, elle va être réhabituée pendant combien de temps?
Ah ça je sais pas aujourd'hui, ça peut demander beaucoup de mois, hein. Ça peut demander de nombreux
oui,
mois.
Ça
ils ont déjà ça va dépendre de plein de conditions, mais ils savent faire, ils ont déjà réintroduit dans le Caucase, ils en ont déjà réintroduit 5, ils sont des spécialistes, sont des gens de très très haute qualité. Et quand on veut faire ce genre de choses, on fait pas de bêtises parce que vous savez la grande hantise de toute réintroduction de prédateurs dans la nature, eh bien c'est que les hommes tout autour et pour ils aient des préjudices existants ou non existants, on le voit. Mmh. On le voit avec nos ours et nos loups, hein. Il y a la peur, vous parliez de la peur des araignées et des serpents, et là c'est aussi une peur qui est souvent bien fausse, sûr. Mais donc il faut impérativement que ces individus soient très très bien préparés et qu'ils sachent exactement les proies qu'il faudra qu'ils mangent et non pas qu'ils aillent auprès des habitations, mais ça ils savent faire, ce sont de très très grands spécialistes. Hein.
Alors certains accusent les parcs zoologiques d'être des prisons pour animaux, là au moins
bien
vous
sûr.
Prouvez que leur rôle ne se limite pas justement à exposer des animaux derrière une grille ou une vitre.
Mais c'est certaines personnes ont aussi raison. Ça fait 30 ans, on a eu beaucoup de communication ensemble, Laetitia, tous ensemble. Il est certain qu'il y a une énorme évolution. J'ai écrit un papier dernièrement. Il y a beaucoup, beaucoup de parcs zoologiques qui font aujourd'hui du très, très bon travail et donnent énormément d'argent pour sauver, pour faire fonctionner ce qu'on appelle chez nous l'in situ, parce que la réintroduction d'animaux dans la nature ou tout simplement le renforcement de populations existantes, c'est le cas là, ou de sauver ce qui reste dans certains endroits, il faut énormément d'argent et les visiteurs des parcs comme le parc des félins sont de généreux donateurs pour aider l'in situ par l'intermédiaire d'associations comme SOS Félin & Co. C'est l'une des solutions, c'est l'une des grandes utilités de ce monde aujourd'hui. Mmh. La qualité a énormément monté en 30 ans.
Merci beaucoup Patrick Jardin et bravo pour cette initiative.
Bravo.
Merci beaucoup.
Merci. Donc,
et j'espère que Simba, ça va bien se passer pour pour lui hein, ou elle, parce que c'est une panthère. Je tiens à préciser que si vous êtes en région parisienne, allez au parc des félins. Mmh. Franchement, ça vaut vraiment le détour avec vos enfants en Seine-et-Marne. Et en ce moment, il y a des bébés, des lionceaux et des bébés lynx. C'est trop mignon, donc allez-y avec vos enfants.
Très bien. Laetitia, on va terminer avec notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin. Et on a sélectionné pour vous vraiment une vidéo très très courte. Sans doute peut-être la plus courte qu'on ait pu
proposer. C'est le concombre vengeur.
Et alors, vous voyez un petit chat qui est en train de vivre sa vie. Puis d'un coup, il se retourne et là, il voit un concombre. Et il a peur et il saute comme ça. Mais c'est un truc de dingue. On a l'impression qu'il voit, je sais pas moi, son pire ennemi. C'est très très drôle. Et c'est à découvrir sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Voilà. Et au passage, vous cliquez sur j'aime, bien entendu, pour rejoindre la communauté des amoureux des animaux sur RMC. Laetitia, on sera là dimanche prochain, on sera là,
et
bien
oui,
sûr.
On sera là comme tous les dimanches d'été, nous serons là.
Vous me ramasserez sans doute à la petite cuillère.
Oui, parce que là, vous aurez fini 24 heures non-stop de grand rush.
De grand rush, voilà. Donc si je ronfle à l'antenne, ne m'en voulez pas.
Je prendrai les rênes de l'émission et voilà, je vais assurer. Je vais vous amener beaucoup de caféine. Qu'est-ce que je pourrais vous amener pour vous réveiller?
Je sais pas moi.
La vitamine C.
Votre bonne humeur me réveillera.
Voilà. Hein? Oh.
C'est beau ou pas?
Non, bon, je vais vous amener le frère de Simba, la panthère.
Ah, c'est très bien, j'adore.
Hein?
C'est super.
Ça va vous réveiller, ça.
Allez, dans un instant, Jean-Luc Moreau pour l'automobile et 32-16 pour toutes vos questions auto. À tout de suite.